Oui, alors c'est les âmes des tzadikim, on avait vu ça. Et, mais comme on n'est pas en train d'étudier cette bénédiction-là, donc on va devoir ne pas trop s'étendre là-dessus, malheureusement. Et ce qui est vrai pour la paix, pour Sim Shalom, c'est qu'il y a en permanence de la paix dans le monde. S'il n'y avait pas de paix dans le monde s'effondrerait. Mais cette paix se fait en haut et pas en bas. D'où la fameuse expression extrêmement pessimiste que nous avons déjà citée plusieurs fois, Ose Shalom Imbromav, ou Ya Ase Shalom Aleinu. Celui qui fait la paix dans les hauteurs, c'est lui qui fera la paix sur nous. Alors ça, cette phrase-là, Ve'al Kol Israël, Ve'imro Amen. Et ce qui est supposé dans cette phrase, c'est que d'abord, il y a la paix en haut. Ose Shalom Imbromav, il y a une paix dans le monde céleste. Par exemple, la Guémara dit entre Gabriel et Michaël. Gabriel qui est fait de feu et Michaël qui est fait d'eau, et pourtant l'eau et le feu se conjuguent ensemble dans le ciel. Pour ça que Shamaim, le ciel, Esh Umaim, c'est le feu et, et l'eau. Et c'est-à-dire que dans le monde d'en haut, dans le monde des valeurs, il y a accord. Mais sur terre, il y a rivalité entre les valeurs. Sur terre, il n'y a pas de paix. Et donc on demande que la paix qui est en haut arrive en bas. De plus, il y a quelque chose d'extrêmement pessimiste, c'est qu'on suppose que nous autres, les hommes, Israël, ne sommes pas capables de faire la paix. C'est Akadosh Baruch Hu qui est capable de l'amener. Alors ça, ça brise totalement la vision naïve comme quoi la paix serait naturelle aux hommes. Vous savez, quand on entreprend une réflexion sur le problème de la guerre et de la paix, alors souvent on se dit comme ça, c'est que la paix c'est naturel et la guerre c'est un malheur exceptionnel. Et on peut amener une preuve de ça. Si vous faites un interrogatoire, vous interrogez tous les hommes de la planète et vous leur demandez qu'est-ce que tu préfères, la paix ou la guerre? Eh bien, une majorité écrasante de plus de 90% vous répondra, nous préférons la paix à la guerre, n'est-ce pas? Maintenant, dans la réalité, il y a des guerres. Tout le temps. Au moment où nous sommes en train de parler là maintenant, il y a entre 20 et 30 guerres qui se font sur Terre. Des conflits armés, violents, sanguinaires, dans le monde entier. Et donc, il y a des midrashim qui disent qu'il y a eu une seule époque de l'histoire où il n'y avait pas de guerre dans le monde entier, c'était au temps du roi Salomon, Shlomo, qui veut dire la paix. N'est-ce pas? Mais pendant tout le temps de l'histoire, il y a des guerres. Et donc, alors, est-ce qu'on a l'habitude de dire, oui, mais c'est quelques politiciens et quelques intéressés qui entraînent les masses pacifiques à la guerre, ce sont des salauds. D'accord, mais si c'est vrai, alors il faudrait les tuer et on en finirait. C'est-à-dire, il suffirait de tuer quelques fauteurs de troubles dans le monde et comme ça, il y aurait la paix sur Terre. Le fait que ce soit pas ça, la vérité, la réalité, ça prouve qu'en vérité, la guerre est pratiquement dans la nature intime de l'homme. Comme on dit en français, c'est consubstantiel à l'identité humaine. C'est-à-dire, les hommes sont des êtres qui font la guerre, et quand il y a la paix, c'est là que c'est exceptionnel. Et il faut comprendre, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ce sont les hommes? Pourquoi est-ce que les hommes ont une tendance naturelle à la guerre? D'accord? Alors, elle ne s'exprime pas toujours, parce que la guerre, c'est contraire à la morale. La morale, c'est que on ne tue pas son prochain. Et pourtant, on le tue. Alors, pour le faire, il faut jeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Alors, la responsabilité, ce sera, par exemple, concentrée chez le politique. C'est le roi, c'est le gouvernement, ce sont les grands groupes pétroliers, etc., qui ont fait la guerre. Mais en vérité, c'est une volonté collective de l'ensemble des hommes. Il y a donc une tendance naturelle à la guerre. Il faudrait comprendre, mais pourquoi? Il y avait un grec du nom de Platon qui s'est penché sur la question. Et Platon dit que la violence fait partie intime de la nature humaine. Bien, il y a une preuve de cela, c'est que nous avons des dents, des ongles, nous avons le moyen de donner des coups de pied. Il y a donc quelque chose de violent en nous, qui veut mordre, qui veut tuer, qui veut détruire. C'est ça? Ça existe. Et donc ça s'exprime, c'est ce qu'on appelle en hébreu, il y a un très beau mot pour ça, le Yetzer Hara, le mauvais penchant. D'accord? Ça c'est la réflexion d'un ancien grec, Platon. il y a une tendance, il y a d'autres interprétations qui ont été données un peu plus tard. Par exemple, un des grands spécialistes de la réflexion sur la guerre dans la modernité, c'était Clausewitz, von Clausewitz, un Allemand, un Prussien plus précisément, qui était officier au temps de Napoléon, et qui a vu beaucoup de carnage, et qui a essayé de comprendre ce que c'était que la guerre. Il a inventé un truc génial, il a dit, eh ben, la guerre, c'est parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Voilà. Hein? Il y a des conflits d'intérêts. D'ailleurs, il n'est pas le seul à l'avoir dit, il y avait un autre Allemand du nom d'Emmanuel Kant qui a dit ça de la même manière. Et d'après Clausewitz, eh bien, on peut dire que les conflits d'intérêts expliquent les guerres, et que le responsable de la guerre, si on cherche un responsable, c'est le faible. Oui, par exemple, voilà, moi je suis très fort, j'ai une armée très forte, et toi tu es faible et tu as des puits de pétrole. Tu devrais bien comprendre que tu n'as aucune chance de t'en tirer. Donc tu aurais dû, dès le départ, renoncer à tes richesses en ma faveur. Le fait que tu ne le fasses pas, ça va entraîner par la force des choses la violence, et donc c'est toi le responsable. La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons prouver tout à l'heure. N'est-ce pas? Et donc ça c'est la thèse de Clausewitz, qui n'est pas si idiote que ça, mais donc qui admet la guerre comme étant une donnée, disons, pratiquement insoluble. Alors il y avait donc un non-juif du nom d'Emmanuel Kant, qu'on avons déjà cité, qui a été préoccupé par la guerre et qui a dit que la guerre, ben voilà, il faut régler ça. Il a écrit un livre qui s'appelle « La paix perpétuelle ». Il explique que finalement la paix viendra. Pour deux raisons. Tout d'abord parce que les armes vont devenir de plus en plus violentes, de plus en plus efficaces. Et donc, tout le monde aura peur d'utiliser son arme, de peur que l'autre l'utilise aussi. C'est ce qu'on appelle en français l'équilibre de la terreur. J'ai une bombe atomique, oui, mais toi aussi tu en as une. Ça ne vaut pas tellement la peine que je l'utilise parce que tu vas l'utiliser contre moi aussi. On ne sait jamais qui c'est qui va jeter la première, en premier. Alors ça c'est la première idée, donc ça amènera par la force des choses, la violence entraînera la paix. Deuxièmement, dit Kant, l'interaction économique fait que l'économie va devenir de plus en plus mondiale, et donc on aura peur de détruire l'économie de l'ennemi, parce qu'en détruisant son économie, on détruit sa propre économie. On a perdu un marché, etc. Donc, les intérêts vont faire que la paix deviendra un intérêt commun. Il y a un petit problème. Il y a deux problèmes qui ont été oubliés par Kant. Tout d'abord, c'est qu'il y a des fous sur Terre. Et que les fous, ils s'en fichent pas mal de savoir s'ils vont perdre quelque chose ou pas. Et donc, ça, c'est pas, disons, contrôlable. Il faut dire que Kant s'imaginait que la raison va l'emporter dans la société, parce que c'était un Allemand et qu'il pensait que la philosophie était faite pour dominer le monde. Donc il y a le premier problème, c'est qu'il y a des fous. Et ça, Kant n'en tient pas compte. Deuxièmement, c'est vrai qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts, ça ne vaut pas la peine de faire une guerre totale, mais ça peut valoir la peine de faire une guerre locale. C'est-à-dire les grandes puissances ne se font pas la guerre directement, mais font la guerre par des conflits interposés au niveau local. Et ça marche très bien. Parce que ça permet de vendre des armes, ça permet de continuer le marché, etc. Et donc, hein? Dans la guerre froide, il y avait ça aussi. Mais même sans la guerre froide, il y a toujours une rivalité en filigrane, et cette rivalité, c'est ça. Donc, ça marche pas très bien, cette histoire. Maintenant, il y avait un autre Allemand, toujours les Allemands s'occupent beaucoup de guerre, du nom de Friedrich Nietzsche, qui lui affirmait que la guerre n'est pas un mal, au contraire, la guerre est un bien. Il n'est pas le seul d'ailleurs à l'avoir écrit, j'ai vu un Français qui a écrit ça aussi, Chateaubriand, ils ont écrit que la guerre, ça trempe, c'est bien. C'est-à-dire, de temps en temps, on a besoin, pour pas trop se ramollir, on a besoin d'un petit conflit comme ça, vite fait, bien fait, on verse un peu de sang, un peu de violence, on sort quelque chose là, c'est très bien. Et alors, on est revigoré par la violence. Ça anoblit. Hein, voilà. Une réflexion à la noble, en fait. évidemment, ça pose un problème. C'est vrai que c'est extrêmement réaliste, mais d'un autre côté, est-ce que ça justifie l'horreur de la guerre? Le Rav Kook, lui, dit, revient à Platon. Il pense effectivement que la guerre est un mal. Bon, c'est tous les juifs le pensent. Le juif pense que la guerre est un mal. Et que ça a pour origine le Yetzer Hara. Et que pour transformer ça, il faut agir non pas au niveau individuel, convaincre les gens que la guerre est mauvaise, il faut pour cela que s'établisse une culture politique qui soit contre la violence. Et cela, il n'est possible qu'à travers le retour d'Israël sur sa terre, parce que le peuple juif est le seul peuple au monde, ou presque, chez qui la violence, le désir de violence est absent. Effectivement, les juifs n'aiment pas tuer, c'est un fait. Et donc, on pourra, en grandissant sur notre terre, imposer une civilisation qui refusera la violence. C'est un peu ce que l'ONU voudrait faire, mais en fait l'ONU est dominée par des conflits d'intérêts. Voilà. Jusque là, vous comprenez? Donc on comprend très bien que la guerre est quelque chose d'extrêmement ancré dans l'être humain, et que c'est pour ça qu'on a besoin d'une prière particulière pour que Dieu nous fasse la paix. Maintenant, pour bien comprendre ça dans la profondeur, il faut rentrer dans l'enseignement du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague explique que la rivalité est naturelle chez les tzadikim. Il dit « Shne tzadikim mitnagdim zelaze beteva ». Deux justes s'opposent l'un à l'autre de façon naturelle. Bizarre, les tzadikim, ce n'est pas des gens méchants. Mais il y a une opposition, il y a une rivalité naturelle. D'où est-ce qu'elle vient cette rivalité? Alors il faut rentrer un peu plus dans la profondeur. Je vais vous poser une question. Je pense que vous connaissez la réponse. D'après vous, d'après le judaïsme, d'où vient le monde? Dieu l'a créé. N'est-ce pas? Hein, je pense. Hein? Ça, j'ai pas dit que ça vient de lui, justement. Lui, il a dit que ça vient d'Hachem. J'ai tout de suite corrigé. Dieu a créé le monde. N'est-ce pas? Il a créé le monde. Être créé, ça veut dire quoi? Ça veut dire recevoir son être d'un autre. C'est-à-dire, je ne suis pas moi l'origine de moi-même, c'est quelqu'un qui m'a donné mon être. C'est ça que ça veut dire, être créé. Donc ça veut dire, implicitement, j'ai un créateur. Donc ce qui me définit en tant que créature, c'est que je suis un receveur. Je suis quelqu'un qui reçoit. Quelque chose qui reçoit. C'est ça être une créature. Donc c'est dans ma nature, c'est mon être le plus profond. Je suis receveur. Un grand kabbaliste, le Rav Ashlag, expliquait dans son commentaire du Zohar que l'être créé, c'est la volonté de recevoir. C'est ça qui a été créé. Je suis une volonté de recevoir. Maintenant, cette volonté de recevoir, elle fait que tout de suite va s'introduire une rivalité entre les différentes créatures. Parce que si moi je suis un receveur et que toi tu es un receveur, il va y avoir rivalité entre nous. Qui va recevoir? N'est-ce pas? Donc la guerre est inévitable. Et en fait, on peut dire oui, mais on a assez pour tout le monde. On n'a pas besoin de s'entretuer, on a assez pour tout le monde. Mais qui c'est qui nous a dit qu'il y en a assez pour tout le monde? C'est l'intelligence qui nous le dit. C'est-à-dire l'intelligence révèle qu'en fait, il n'y a pas de raison à la rivalité. Parce que c'est vrai que je veux recevoir et que toi aussi tu veux recevoir, mais il y en a assez pour tout le monde. Si vous prenez par exemple, vous avez abattu une vache par exemple. Hein, il vous reste donc le corps de la vache. Et vous le jetez auprès d'une meute de chiens affamés. Qu'est-ce qui va se passer? Comment? Ils vont se battre entre eux. Alors qu'il y en a assez pour tout le monde. Qu'est-ce qui leur manque? L'intelligence. Voilà. Et donc, c'est lorsque va dominer l'intelligence que l'on pourra arriver à la paix. Mais pour que l'intelligence domine, il faut pour cela ce qu'on appelle Siata d'Ishmaïa, une aide du ciel. Donc c'est pour ça qu'on a besoin qu'Akadosh Baruch Hu intervienne pour faire la paix. Ce qui veut dire que s'il y a un foyer de paix sur terre, quelqu'un qui a réussi à faire la paix, c'est donc que la Shekhina est arrivée sur terre. Mais comment savoir s'il y a la paix ou pas? Parce que les gens ne se tuent pas. Ça s'appelle la non-belligérance. C'est pas encore la paix. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait conflit entre des parties totalement opposées et qui sont quand même capables de se mettre d'accord. C'est ce qui s'est passé dans la famille des Avot. Dans la famille des Avot, nous avons le conflit entre Yosef et ses frères. Et ils sont prêts à s'entretuer à cause de ça, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et pourtant, ils font la paix à la fin. Donc, ils ont réussi véritablement à s'entendre. Donc, la Shekhina est descendue sur terre, donc l'histoire peut commencer, et c'est pour ça que le livre de Bereshit s'achève avec la réconciliation des frères. Oui ? Exactement. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on sait que la paix entre les frères est une véritable paix? Uniquement après la mort de Yaakov. Parce que tant que Yaakov est vivant, ils se disent, bon, il a fait la paix avec nous, mais pourquoi? Parce qu'il ne veut pas faire du mal à son papa. Mais non, le papa est encore vivant. Donc ça ne prouve rien. Il faut attendre qu'il meure. Et à ce moment-là, il y a la tension, et c'est là que se fait la paix. Et donc, à partir de ce moment-là, on sait que la paix est véritable. D'accord? Mais non, ça veut dire quoi, ils ont fait la paix? Est-ce qu'ils ont entamé l'un l'autre? Certainement pas. Si j'exploite la paix pour t'entamer, c'est que c'est pas de la paix. C'est une reddition. Par exemple, si je suis prêt à faire la paix avec toi à condition que tu renonces à toi-même, ou à une partie de toi-même, ou à ta femme. D'accord? C'est pas la paix. Ça s'appelle une victoire de l'un et une capitulation de l'autre. C'est ça? Par contre, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui on emploie le terme de shalom pour parler d'une capitulation. Vous savez, hein, vous écoutez pas à la radio peut-être, je sais pas, mais dans les médias, on parle souvent de ça. C'est-à-dire, on parle d'une capitulation et on a décoré ça d'un très beau nom, on a profané un nom, on l'appelait shalom. Hein. Et bon, alors il faut faire tout un travail maintenant de ramener la vapeur. Enfin bon. Se faire marche arrière, c'est pas si simple. Enfin, c'est un travail sur lequel il faut travailler. Donc tout ça, c'était pour vous expliquer ce que c'est que le Sim Shalom. Oui, vas-y. Alors, est-ce que la paix ne dépend pas du tout de l'homme? Très bonne question. Je pense que la paix ne dépend pas entièrement de l'homme. Ça veut dire qu'il y a un élément qui n'est pas aux mains de l'homme et pour lequel on a besoin d'intervention de Dieu. Mais on peut préparer le terrain pour que ce soit facile. Mais c'est comme si, par exemple, il y avait un puzzle avec 300 morceaux. Alors, 299, on peut, mais il y a un 300e, il doit venir de là, d'ailleurs. D'accord? On veut préparer le terrain pour le 300e morceau. 300, c'est purement fortuit, hein, j'aurais pu dire 277 ou n'importe quel autre chiffre. C'était simplement pour donner un exemple. Oui. 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 Il ne peut pas y avoir quoi? De paix par les hommes. Oui, effectivement. Oui, oui. Oui, non, c'est... Oui, c'est-à-dire que la paix, pour l'instant, on est au bas mot, très bas. Ouais. Alors, effectivement, la paix n'est absolument pas possible parce qu'il n'y a pas de paix intérieure. C'est-à-dire, on doit d'abord savoir qui on est et alors on peut faire la paix avec un autre. Vous savez, quand il y a des gens qui sont en conflit, j'exige de l'autre de se mettre d'accord avec moi. Oui, il me dit, oh, d'accord, mais mets-toi d'accord avec toi-même d'abord. Ouais. Évidemment, il faut se remettre en question. Il faut savoir quelle est la raison de se s'enverser. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a conflit? Alors, il faut surtout ne pas se tromper sur la nature du conflit. Parce que si pendant 63 ans, on dit voilà, il y a un conflit parce que vous avez pris du terrain à quelqu'un. Et depuis quelque chose comme 40 ans, on n'arrête pas de dire ben, prenez le terrain. Et pourtant, il n'y a pas la paix, c'est qu'alors il y a autre chose. C'est-à-dire qu'on s'est trompé sur la nature du conflit. D'accord? Oui. Oui, mais dans ce cas, c'est une question de rapport de force. Si simplement ils veulent tout le terrain, etc., c'est une question de rapport de force. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire, imaginez par exemple qu'il y ait un conflit entre la Belgique et le Luxembourg. Hein? Voilà. Entre la Belgique et le Luxembourg, il y a un désaccord violent parce que il y a le tracé de la frontière, il y a une forêt là comme ça, il y a quelques bosquets que le Luxembourg dit être à lui et la Belgique, non, non, pas du tout, c'est pas au Luxembourg, c'est à la Belgique. Alors très embêtant, on n'arrête pas d'en parler dans la presse, il y a eu même quelques petites violences à la frontière, on a annulé le festival luxembourgeois à Bruxelles, enfin vous vous rendez compte, c'est terrible. et la communauté internationale est en émoi. Alors, comment est-ce qu'on règle ça? Ben, on fait ce qu'on appelle une commission d'arbitrage. Arbitrage, bon, alors on va prendre un tribunal international, quelques grandes puissances qui vont participer, etc. On va voir ce qui se passe sur le terrain, s'il y a des documents, s'il y a des arguments, s'il y a un problème moral, etc. Bon, on dit, on ne va pas quand même s'entretuer pour ça, on va faire finalement un compromis, une bonne fois pour toutes, on va tracer la frontière comme il faut, voilà. Et après, on va se faire la bise. Ça peut durer 10 ans, 20 ans, mais zéro. Après, c'est fini. Et souvent, on s'imagine donc que le conflit proche-oriental, c'est une sorte de conflit de ce genre. Problème de tracer de frontières. Alors, on n'est pas d'accord, donnez-nous un peu de ci, un peu de ça, etc. On va s'arranger, après tout, nous sommes intéressés à vivre ensemble, non? C'est comme ça s'appelle le Vaad Bayit, c'est-à-dire on faut organiser les dépenses de l'immeuble dans lequel on habite, et chacun a ses exigences, on va s'arranger. D'accord? C'est n'importe quoi, en vérité. C'est parce que la nature véritable du conflit est tout à fait autre. Mais ça, personne ne veut en parler. Disons comme ça, on dira, c'est tout à fait par hasard que les parties en présence sont, comme par hasard, les juifs, les musulmans et le monde chrétien. Oui, mais c'est un hasard. Il ne faut pas en parler. Il faut surtout se dire que c'est quelque chose comme si c'était le tracé entre le Luxembourg et la Belgique. Ou bien entre l'Autriche et la Hongrie. Voilà, c'est comme ça que c'est, pas plus. Surtout ne dites pas de bêtises. Le fait que ce soit des juifs, tout à fait par hasard, qui habitent ce pays, que ce sont des musulmans de l'autre côté et des chrétiens de l'autre côté, il ne faut pas sûrement en parler. À part ça, le territoire dont il est question, n'allez surtout pas dire que c'est Eretz Israël biblique. Surtout pas. C'est tout à fait un hasard. Ça aurait très bien pu être autre chose. Il se trouve que dans les couches archéologiques, il y a aussi quelques bâtiments comme ça qui ressortent. Il y a des richesses culturelles, comme par hasard. C'est ça dont parle la Torah. Non, mais attention, vous allez éveiller les démons. Alors, vous allez écraser ça, on n'en parle pas. Mais le problème, c'est que quand vous mettez un démon sous un tapis, vous savez ce qu'il fait? Il bouge. Alors, de temps en temps, on fait, oui, il n'existe pas. Là, on marche sur l'œil du démon, voilà, tais-toi, hein, voilà. Bon, d'accord, il se tait. Après, il revient un quart d'heure plus tard. Alors, on ne peut pas régler un problème si on ne connaît pas la nature du problème. Or, la véritable nature du problème, c'est que le conflit est un conflit spirituel, religieux, métaphysique, même à la limite. Alors, l'argument qu'il y a dans la classe politique internationale, aussi bien que celle israélienne, oui, mais si vous dites que c'est un conflit métaphysique, alors c'est insoluble. C'est exactement le contraire. C'est parce que le conflit est métaphysique que si on en parle, il devient soluble. Il faudra régler ça comme on règle des problèmes métaphysiques. Voilà, c'est tout. Comment est-ce que la Torah règle ce problème? En disant la vérité. C'est-à-dire, quand je vois quelqu'un qui est malade, je ne veux pas lui faire de peine, je lui dis qu'il est en bonne santé, je lui fais du mal. Il faut dire la vérité, c'est que c'est Israël qui est revenu sur cette terre pour dire quelque chose à l'humanité, et que sa relation envers la chrétienté, c'est la relation de Yaakov avec Esav, et envers les Arabes, c'est la relation de Sarah avec Ishmaël. C'est ça dont il est question. Et que, oui, il faut bien comprendre, ou de Yitzhak avec Ishmaël, et qu'il y a une différence donc entre le statut du fils de la servante et du fils de la principale. Une fois que c'est bien mis en clair, alors nous aurons quelque chose à dire. Et à partir du moment où nous aurons quelque chose à dire, eh bien les goyim écouteront. On peut dire qu'une grande partie du conflit, de l'opposition à Israël, la délégitimation d'Israël qu'il y a aujourd'hui, c'est parce qu'on nous reproche en sourdine de n'avoir rien dit alors qu'on avait pris le microphone. Ça, il faut bien comprendre une chose, c'est que être revenu en Eretz Israël après 2000 ans, ou après 1800 ans, ça a bouleversé les habitudes de pensée de tout le monde. C'est-à-dire, pour le christianisme, c'est un traumatisme, le retour d'Israël, il faut bien savoir, et pour l'islam aussi. Alors, bon, le monde entier a vu, bon, d'accord, vous avez souffert pendant la Shoah, vous avez fait les imbéciles, vous êtes revenu, vous avez asséché les marais, et vous avez fondé un État. C'est que certainement, si vous êtes prêt à faire tellement d'ébranlements, c'est que vous avez quelque chose à nous dire. On est revenu, on n'a rien dit. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire là? Vous vous êtes cassé les pieds. Rendez ces territoires, c'est pas à vous. Vous gênez. D'accord? Et donc, ça demande, de la part des Juifs, c'est-à-dire nous, d'avoir un discours véritable d'enseignement aux nations à partir des restes d'Israël. Voilà. Il faut prendre cette responsabilité sur nous. Ça veut dire qu'en vérité, le président de l'État d'Israël, le premier ministre israélien, doivent aller voir les chefs des nations et leur dire, voilà, c'est ça que nous avons comme plan pour vous. Hein? Ah, ils ne le savent pas. Donc, il faut les informer. Alors, pour les informer, il faut pour cela changer la culture politique et spirituelle en Israël. Alors, pour le faire, il faut fonder le Machon Meir, par exemple, et faire du travail. D'accord? Une fois qu'on aura fait ce travail, de manière pas infantile, mais de manière adulte, alors nous avons l'espoir de changer quelque chose. Hein? Oui. Non, ça c'est le but. Le but, c'est, ça n'a pas besoin d'aller voir le président. Le président le comprendra de par lui-même. Ce ne sera peut-être pas le même. D'accord? Voilà. Oui? Alors les événements, alors parfois on se fait porter par les événements, c'est vrai, mais pourquoi ne pas prendre le devant? C'est... Oui, le problème c'est que si tu attends les événements, alors ça va se faire de manière catastrophique. Il vaut mieux que ça se fasse de manière douce. Oui, alors les événements entre autres sont un peu des événements spirituels. La diffusion d'un enseignement sérieux et véritable et sioniste en Eretz Israël est véritablement universel. Donc l'espoir c'est les rabbins. Oui, ben voilà. Bon, pourquoi vous rigolez? Voilà. Bon, maintenant je reviens à Sim Shalom. D'accord? Nous arrivons dans la bracha. Il y a une différence dans le texte de la bracha entre chez les Ashkenazim entre le matin, midi et soir. Alors, dans le Noussar qu'on appelle Ashkenaz, le matin on dit Sim Shalom, mais l'après-midi et le soir on dit Shalom Rav. Dans le Noussar chassidique, chez la plupart, on dit Sim Shalom le matin et l'après-midi, et Shalom Rav le soir. Chez les Sfaradim, on dit toute l'année Sim Shalom matin, midi et soir, sauf à Tisha B'Av où on dit Shalom Rav. D'accord? Bon. Il y a quelques variantes aussi, mais enfin, disons, dans l'ensemble, c'est à peu près la même chose. Sim Shalom met la paix. Tova. Là, je lis dans le texte séfarade. Tova uvracha, la bonification, la bénédiction, chaim, la vie, hen, la grâce, vachesed, la bonté, verachamim, la miséricorde. Aleinu v'al kol Israël amecha, sur nous et pour tout Israël, ton peuple. Mais non, c'est-à-dire que, à partir du moment où il y a la paix, ça déclenche beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire une réaction en chaîne. C'est-à-dire, un élément entraîne tous les autres. S'il y a la paix, il y a abondance. Mais le problème, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on veut faire la paix. Le Rav Kook explique dans son commentaire sur la Tefila qu'il y a deux raisons de faire la paix. Il y a la raison technique, disons intéressée. C'est-à-dire, ça serait bien qu'on fasse la paix entre nous pour qu'on ne s'entretue pas. Parce qu'être tué, ce n'est pas une bonne chose. Donc, pour que je ne te tue pas et que tu ne me tues pas, nous allons faire la paix. C'est un intérêt. Problème, dit le Rav Kook dans cette approche, c'est que si j'étais sûr que je pouvais te tuer sans risquer d'être tué, je le ferais. Et il est probable que viendra un moment où l'équilibre des intérêts va changer. Et donc, à partir du moment où une des parties se sentira assez forte, elle va rompre la paix. Donc, une paix de ce genre ne peut pas être éternelle. Par contre, dit le Rav Kook, il y a une paix que l'on fait parce que le nom de Dieu, c'est Shalom. C'est-à-dire que nous savons que la manifestation de la Shekhina sur Terre, de la présence de Dieu sur Terre, n'est possible qu'à travers la paix. Et c'est une motivation beaucoup plus sérieuse, parce que même à partir du moment où je, sur le plan des intérêts matériels, j'y perds, je continuerai à faire la paix avec toi, parce qu'il y a une valeur intrinsèque, absolue, à la paix. D'accord? Et donc ça devient éternel. Je reprends ici le texte de la Tefila. Sim shalom tova vracha imachen vachesed vracha imalenu, val kol Yisrael amecha. Uvarechenu et béninu. Avinu, notre Père. Vous avez remarqué ici quelque chose de nouveau. Uvarchenu, Avinu, notre Père. Qu'est-ce qui manque? Malkenu, notre Roi. Vous savez que Avinu, ça exprime une proximité. Malkenu, une distance. Par exemple, dans Selah Lanu, dans Pardonne-nous, dans Achivenu, on dit Avinu, Malkenu. C'est pas? Dans les jours de pénitence aussi, on dit Avinu, Malkenu. Mais à partir du moment où il y a la paix, il n'y a que la proximité, il n'y a pas l'éloignement. C'est pour ça qu'on dit à ce moment-là, Avinu. D'accord? Kulanu ke'echad, ou bien Yachad Keechad, ou Kulanu Yachad, ça dépend des différentes éditions, enfin des éditions de Nusachim, mais ça veut dire tous ensemble. C'est-à-dire, pour qu'il y ait, s'il n'y a pas la paix, il y a la bénédiction pour l'un, mais pas pour l'autre. Mais s'il y a la paix, il y a la bénédiction pour tout le monde. Asbarhelo Kulanu Keechad, ensemble, là vient ici une expression extrêmement importante. Beor Panecha, dans la lumière de ta face. C'est quoi la lumière de ta face? Ça veut dire que c'est la lumière de ta face qui est la bénédiction, qui est la paix et tout le reste. Ça veut dire qu'il y a donc deux relations possibles envers la divinité, soit par la face, soit par la nuque. Il y a le visage, et puis il y a l'arrière du visage. Si je vois quelqu'un dans son visage, la relation est directe. Si je le vois par derrière, par exemple, bien qu'on est dos à dos, c'est une relation indirecte. On pourrait dire même impersonnelle. Parce qu'il n'y a pas une personne face à une personne. Donc on peut dire que l'espérance spirituelle, selon le judaïsme, c'est l'espérance de voir la face. Par exemple, dans les trois fêtes de pèlerinage, la Torah dit, trois fois par an, Shalosh Perim Bashana, Yirae Kol Zeruha, tous tes mâles viendront être vus, et Peneha Adon, à la face du Maître, Hachem Elohe Israël, Hachem qui est le Dieu d'Israël. C'est-à-dire, c'est très contraire, ce que je viens de dire, à l'esprit qu'on appelle mystique. Dans l'esprit mystique, il y a une pulsion de mort. C'est-à-dire, il y a une recherche de la fusion dans Dieu. Vous connaissez ce truc-là, l'union mystique? Il y a des tas de gens comme ça qui parlent de « je veux me fondre dans la divinité ». On voit ça souvent, je sais, par exemple, chez les bouddhistes, qui eux veulent se fondre dans le néant. Mais on voit ça dans beaucoup de religions, il y a une espérance comme ça, en fait, de disparaître dans le divin. Et donc on peut dire qu'il y a une sorte d'identification de l'amour avec la mort. Il y a même une expression en argot israélien, on dit je t'aime beaucoup, on dit Ani met alaïr, je meurs de toi. C'est ça? Là, c'est une expression amoureuse. Mais ça voudrait dire que dans la relation envers l'autre, il y a une annihilation de mon être. Ça explique d'ailleurs pourquoi est-ce que les célibataires ne veulent pas se marier. Parce que les célibataires considèrent que le mariage est une forme de mort. C'est pour ça qu'on dit, laisse-moi vivre, après je me marierai. C'est ça? Donc, comme disent certains, le problème n'est pas savoir s'il y a une vie après la mort, mais s'il y a une vie après le mariage. Et certains disent que oui, mais c'est l'enfer. Mais alors qu'en vérité, c'est tout à fait le contraire. Tout ça vient d'une erreur de mathématiques. Alors, expliquons-nous un peu. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui s'y connaît en maths? Vous avez fait des maths? Un petit peu, d'accord. Alors, ça fait combien 1 plus 1? On avait vu ça, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que 1 plus 1, d'après la Torah, ça fait 3. C'est tout à fait logique, parce que s'il y a 1 plus 1, c'est qu'il y a un troisième élément qui vient du fait de la rencontre. Tandis que les romantiques pensent le contraire, que 1 plus 1, ça fait 1. Donc le mariage est une catastrophe, parce que ça veut dire qu'il y en a un qui a été sacrifié, et une victime au moins. Peut-être les deux d'ailleurs, parce que peut-être qu'il est resté que deux moitiés. Et donc, ou trois quarts et un quart. C'est-à-dire une fusion, la fusion est négative. Tandis que ce dont parle la Torah, elle parle de, par exemple, quand vous voyez ce qui s'est passé au Mont Sinaï, il y a eu un face-à-face. La Torah dit « Panim fanim diber Hashem imachem ». C'est face-à-face que Dieu vous a parlé. Dans le face-à-face, il y a quelque chose de très important. D'abord, il n'y a plus d'écran. Les écrans disparaissent. Bête, deuxièmement, il y a l'autonomie de chacun qui est respectée. C'est-à-dire la réussite de la création, c'est quand la créature existe de par elle-même. N'est-ce pas? C'est ce qui est dit ici, donc, la lumière que nous donne ton visage. C'est quoi la lumière? Le mot lumière en hébreu signifie l'entendement. Il y a des choses qu'on ne comprend pas tant qu'il n'y a pas assez de lumière. Alors on demande un surplus de lumière pour mieux comprendre quoi? Panecha, qui est ton visage? Qui tu es? N'est-ce pas? C'est ça donc l'espérance des âmes d'Israël. Qui beor panecha, car dans la lumière de ton visage, Natatalanu, si tu nous donnes ça, alors on a tout. Natatalanu Hashem, tu nous donnes, éternel notre Dieu, Torah, Vechaim, la Torah et la vie, Ahava Vachesed, l'amour et la grâce, Tzedaka Varachamim, Beracha Veshalom, la générosité, la miséricorde, la bénédiction et la paix. Dans le texte ashkénaze, c'est Torah Trahim ve'Ahava Tresed. Ce n'est pas Torah ve'Chaim, c'est une loi de vie, Ahava Tresed, un amour de grâce. D'accord ? Mais c'est pratiquement la même chose. Ve'tov be'enecha, et il est bon à tes yeux. C'est ce que tu veux. Levarechenu, de nous bénir. Ou levarech, et de bénir et kol amcha Israël, tout ton peuple Israël, berov oz, avec abondance de force, de vigueur, de vaillance, ve'shalom et de paix. C'est-à-dire, c'est la paix n'est pas l'absence de vaillance, c'est le contraire. Baruch ata Hashem, tu es source de bénédiction. Hashem, amvarech et amu Israël bashalom. Qui bénit son peuple Israël dans la paix. Amen. Maintenant, le problème, c'est que, vous avez remarqué, quel est le mot qui revient le plus dans la prière, dans cette bénédiction? Levarech. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a dans la paix l'idée de bracha. Bracha, bénédiction, plus précisément de réceptacle. Une piscine se dit en hébreu? Brecha. C'est-à-dire ce qui reçoit. Et la Gemara dit, Lo matza kadosh baruch kli mahazik bracha li Israël, et la shalom. Dieu n'a trouvé de réceptacle de bénédiction pour Israël que la paix. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Hashem yevarech et amo bashalom. Dieu bénira son peuple par la paix. Hein? Et donc, quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bénédiction. Donc le réceptacle de la bénédiction, c'est la paix. Mais c'est tout bête, non? Oui. D'où la nécessité qu'il nous la donne. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait le shalom pour qu'il y ait la bracha. Or, le shalom ne peut venir que d'en haut, donc on demande qu'il nous la donne pour qu'on ait un réceptacle. C'est tout ça. C'est QFD. Ça veut dire, c'est quoi en initial, c'est QFD? Canard qu'il fallait déplumer. Oui, vas-y. On n'a jamais eu vraiment la bracha, exactement. Nous bénir, ainsi que tout ton peuple Israël. Qui c'est ça, ce nous? Le nous, c'est l'assemblée des priants. C'est-à-dire le minyan où tu fais la tefila. D'accord? Ou tes proches. Oui. Bah oui, c'est ce qu'il y a, oui, effectivement. Shalom, ça veut dire quoi? L'unité. Il y a la paix. Donc, il faut d'abord commencer par la paix entre nous. Par là, il y a la paix chez les autres. Il y a une très belle expression. Mi bayit ou michus, c'est s'appelle nous avtaor. L'arche sainte dans le Mishkan, elle est couverte d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Mi bayit ou michus. Alors pourquoi on commence par l'intérieur? Parce que pour donner quelque chose aux autres, il faut d'abord avoir fait la paix chez soi. D'accord? Baït ou Michutz. Et là donc, c'est la fin des 18 bénédictions. Vous avez remarqué, donc vous avez les trois premières qui correspondent aux Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, les trois dernières qui correspondent à Moshe, Aaron et Yosef, et vous avez tout le reste, les intermédiaires, qui sont les 12 ou 13 requêtes des enfants d'Israël qui correspondent aux 12 ou 13 tribu. C'est comme ça que la prière est agencée. Quoi? Il y a 13 tribus, non? Il y en a 12 qui sont 13. De même qu'il y a 18 bénédictions qui sont 19. Essayons de voir. Il y a Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, hein? Alors, on compte pas Lévi si on met Ephraim ou Ménaché. D'accord. Donc, il y a toujours un problème de 12 ou 13. D'accord? 12 qui sont 13. Parce que le 13e, c'est celui qui fait l'unité. Donc, il n'est pas compté à part. Il n'existe que s'il y a les 12 autres. C'est pour ça que le mot Lévi, ça veut dire quoi? Celui qui accompagne. Là, les lavotes. C'est un accompagnateur. C'est-à-dire, c'est de la colle, quoi. C'est du ciment. C'est ça, le Lévi. D'accord? Et c'est lui qui fait le pont, c'est le pont Lévi, qui fait l'unité du peuple. Une fois finis les 18 qui sont 19 bénédictions, c'est là qu'intervient la prière personnelle. N'est-ce pas? On dit Yivu l'Eratzon Ibrefi, Vegon Ibi l'Efanecha, Hashem Sori Gvoli. On commence le Elohai Netzor. L'Elohai Netzor, qui est un rajout tardif de l'époque de la Gemara, est dit au singulier, alors que jusqu'à présent on a parlé au pluriel. Mais pourquoi? Eh bien, simplement parce que jusqu'à présent, on n'a parlé qu'au pluriel. C'est-à-dire que la prière, pour qu'elle exprime une volonté qui soit véritablement la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle doit être dite au nom du klal. Parce que l'individu, il a des volontés qui sont contraires à la volonté du klal. Donc il faut d'abord passer par le klal. Mais une fois qu'on a fait cette prière, alors nos volontés personnelles s'accordent avec la volonté du klal. Et c'est ce qu'on dit dans le Eloah et Notzor, c'est là qu'on rajoute plein de choses personnelles. Oui. Dans Shema Kolenu aussi. N'est-ce pas? Dans Shema Kolenu, on a introduit sa volonté personnelle à la fin des 12 demandes. N'est-ce pas? C'est le même principe. Et puis il y a ce qu'on appelle le cours de rattrapage. Moed Bet. Alors on peut également ici. D'accord? Et là on en rajoute plein. Des choses qui sont personnelles, mais qui viennent sur l'arrière-plan de la demande d'être soi-même comme il faut. On dit protège-moi du lachonara, protège-moi de dire des bêtises, que je désire tes mitzvot, etc. Ça, et à partir de là, si je suis comme ça, donc je peux également demander un surplus. Je peux demander, par exemple, de réussir mon épreuve de baccalauréat ou mon permis de conduire, ou bien que mon match de foot cet après-midi, par exemple. Il y a tas de choses. Ou bien même l'étude de la Torah. Hein, oui. On peut mettre là et là. Indifférent. Aucun problème. Là, on peut en rajouter tant qu'on veut. Hein. Voilà. Ça finit par Yul Ratson Brefi. Vegan Ibil Fanecha Shen Suri Vugoali. Ça devient personnel. D'ailleurs, c'est pour ça que nos frères Ashkenaz ne disent pas cette phrase quand c'est le Chazan qui fait la prière. Parce que c'est quelque chose de personnel. Pourquoi dire quelque chose de personnel? Mais les Sfaradim, pour des raisons kabbalistiques, l'introduisent quand même. Et après, on fait, quand on est Yachid, on sait Shalom Romav. Alors là, on fait la prière qui demande à Kadosh Baruch Hu d'amener la paix sur nous. On se prosterne à gauche, à droite et devant. Pourquoi? Parce que nous sommes devant un tribunal. Et devant le tribunal, nous avons, si vous voulez, trois juges. Un juge qui est toute bonté, un juge qui est toute rigueur, et un président du tribunal qui est les deux à la fois. Je veux vous dire quelque chose? Hein? Oui, le nom, son nom, oui, justement. C'est-à-dire, on amène un pasouk qui permet de se rappeler de son nom au jour du jugement. C'est-à-dire quoi, se rappeler de son nom? C'est-à-dire, mon individualité, est-ce qu'elle vaut la peine d'être préservée, de continuer ou pas? Est-ce que je vaux quelque chose? Est-ce que j'ai un nom? C'est ça que ça veut dire. Parce qu'au moment du jugement, mon individualité risque d'être remise en question. Oui, alors bon, ça c'est des points de détail. Comment faire ça? Combien de versets mettre, etc. Deux prénoms, un demi-prénom. Est-ce qu'il faut que ce soit les initiales? Est-ce qu'il faut que ce soit le nom lui-même qui apparaît dans le verset? Il y a différents minagim. Ça c'est déjà beaucoup moins important. Mais disons qu'au moment de la fin de la prière, c'est là qu'on prend conscience de sa personne. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu à propos d'Abraham? Quand Abraham est dans la vision, il disparaît. Quand finit la vision, Abraham redevient lui-même. Alors il risque d'oublier qui il était, avoir une amnésie. C'est pour ça qu'à la fin de la prière, on se dit, oui, c'est moi qui existe, je suis un tel, fils d'un tel, etc. Vous avez compris? C'est là que donc ça s'achève la tefila. Oui. Ah oui, alors ça on rajoute des tas de trucs. Oui, alors il y en a qui demandent le Beth Amikdash à ce moment-là. Oui, parce que ce qu'on a demandé dans la prière, c'était le Beth Amikdash, parce qu'on aime bien les korbanot. Mais il y a aussi un autre problème, c'est qu'on n'aime pas la manière dont la prière est faite aujourd'hui. Ça, on ne peut pas le dire pendant la prière. Le Beth Amikdash, il vient transformer notre manière de faire la prière. Et donc, voilà, j'ai prié à la manière de quelqu'un qui n'a pas de Beth Amikdash. Mais je demande qui est le Beth Amikdash pour qu'on puisse prier de manière normale, n'est-ce pas? Bon, ce qu'on n'a pas étudié encore, je crois, c'est les bénédictions du Kriyat Shema, n'est-ce pas? Oui, il y a la lecture du Shema, en introduction à la prière, il y a la lecture du Shema. Alors ça, je pense qu'il sera bon de voir ça la prochaine fois. Shalom.